À cette époque-là, je chantais souvent, car c'était ce qui me tenait le mieux compagnie. Ce matin-là, c'était un vieil hymne à la gloire des activités de la ferme. J'aimais la façon dont il se formait sur mes lèvres, cette liste rassurante de plantes et de récoltes, de fermettes et de bergeries, et des étoiles qui effectuaient leur rotation au-dessus. Je laissais les mots flotter dans les airs, en touillant une marmite de teinture. J'avais vu un renard, et j'essayais de reproduire la couleur orangée de son pelage. Le liquide bouillonnait d'un mélange de garance et de safran. Mes nymphes en avaient fui la puanteur, mais j'aimais les sensations qu'elles procuraient. La gorge qui pique, les yeux qui pleurent. Ce fut ma chanson qui attira leur attention, car ma voix avait dérivé jusqu'au sentier menant à la plage. Ils la suivirent à travers les arbres avant d'apercevoir la fumée de ma cheminée. Une voix d'homme lança
« Il y a quelqu'un ?»
Je me souviens de mon choc. Des visiteurs. Je me retournai si précipitamment que la teinture m'éclaboussa et qu'une goutte brûlante me tomba sur la main. Je l'essuyai d'un geste en me dirigeant à la hâte vers la porte. Ils étaient 20, la peau burinée par le vent et brillante d'avoir pris le soleil. Leurs mains étaient très calleuses, leurs bras plissés de vieilles cicatrices. Après avoir passé si longtemps au milieu de l'uniformité lisse des nymphes, chacune de leurs imperfections était un plaisir. Les pattes d'oie autour de leurs yeux, leurs jambes couvertes de croûtes, leurs doigts aux articulations cassées. Je dévorais du regard leurs vêtements élimés, leurs visages usés. Ces hommes n'étaient ni des héros ni la garde rapprochée d'un roi. Ils devaient lutter pour subsister comme Glaucos l'avait un jour fait, jetant leurs filets, transportant des chargements disparates, dénichant ce qu'ils pouvaient pour dîner. Une chaleur soudaine m'envahit. Mes doigts me démangeaient comme s'ils brûlaient de prendre du fil et une aiguille. Il y avait là quelque chose de cassé que je pouvais réparer. Un homme s'avança. Il était grand et gris, le corps mince. Beaucoup de ceux qui le suivaient avaient gardé la main sur la garde de leurs épées. Sage précaution. Les îles sont des endroits dangereux. On y rencontre aussi souvent des monstres que des amis.
« Madame, nous sommes perdus et affamés, » dit-il, « et nous espérons qu'une déesse telle que toi aidera des hommes dans le besoin. »
Je souris. Après tout ce temps, sentir ce sourire sur mes lèvres me procura une sensation bizarre. « Vous êtes les bienvenus. Entrez. » Je poussai les lions et les loups dehors. Tous les hommes n'étaient pas aussi inébranlables que Dédale, et ces marins paraissaient avoir déjà traversé suffisamment d'épreuves. Je les conduisis jusqu'à mes tables, puis me hâtai vers la cuisine pour apporter des plats débordants de figues cuites et de poissons rôtis, de fromage saumuré et de pain. Ils avaient lorgné mes cochons en arrivant, se poussant du coude et murmurant à voix presque haute qu'ils espéraient que j'allais en tuer un. Mais, une fois qu'ils eurent les poissons et les fruits devant eux, ils furent si avides qu'ils ne firent pas les difficiles, ne prenant même pas le temps de se laver les mains ni de poser leurs épées. Ils engloutirent la nourriture à toute allure, leurs barbes assombries par la graisse et le vin. J'apportai davantage de poissons, de fromage. À chacun de mes passages, ils baissaient la tête devant moi. « Madame, maîtresse, mille merci !» Je n'arrivais pas à arrêter de sourire. La fragilité des mortels appelle la gentillesse et la bonne volonté. Ils savaient apprécier l'amitié et la main qu'on leur tendait. Si seulement davantage d'entre eux pouvaient venir, songeai-je. Je nourrirais un équipage par jour, et avec joie, deux, trois, et peut-être que je recommencerais à me sentir moi-même. Les nymphes nous jetaient des coups d'œil timides depuis l'entrée, bouche bée. J'allais très vite les trouver et les renvoyer avant qu'on ne les remarque. Ces hommes étaient à moi, c'étaient mes invités, que je pouvais accueillir comme bon me semblait, et je tirais plaisir à m'assurer moi-même de leur confort. Je versai de l'eau fraîche dans des bols afin que les hommes puissent se rincer les doigts. Un couteau tomba par terre et je le ramassai. Lorsque la coupe du capitaine fut vide, je la remplis dans la jarre pleine à ras-bord. Il la leva dans ma direction. « Merci, ma douce. » « Douce. » Ce mot me perturba brièvement. Il m'avait appelée déesse auparavant, et c'était en ces termes que je croyais qu'il pensait à moi. Or, je m'aperçus qu'il ne me manifestait ni admiration, ni déférence religieuse.
Ce titre n'avait été que l'expression d'une courtoisie flatteuse envers une femme seule. Je me souvins des confidences d'Hermès jadis. « Tu as la voix d'une mortelle. Ils ne te craindront pas comme ils nous craignent, nous. » Et c'était bien le cas. Ils pensaient que j'étais comme eux. Je restais un moment immobile, enchantée par cette idée. À quoi ressemblerait mon moi mortel? Une vendeuse de simples pleine d'initiative? Une veuve indépendante? Non, pas une veuve. Je ne voulais pas d'une histoire sordide. Peut-être une prêtresse, à condition qu'elle ne serve aucun dieu. « Dédale est venu ici un jour, » expliquai-je à l'homme. « J'ai gardé cet hôtel en souvenir. » Il hocha la tête. J'étais déçue de voir à quel point il était peu impressionné. Comme s'il existait des hôtels en souvenir de héros morts partout. Après tout, peut-être que oui. Comment aurais-je pu le savoir? Leur appétit commença à se tarir et ils levèrent la tête de leur assiette. Je les vis se mettre à regarder autour d'eux, à lorgner l'argent sur les vases, les gobelets dorés, les tapisseries. Si mes nymphes considéraient ces richesses comme un dû, les prunelles de mes invités brillaient d'un éclat appréciateur, cherchant déjà la merveille suivante. Je songeais à mes mâles remplis d'oreillers en plumes, assez pour improviser des lits à même le sol. Lorsque je les leur donnerais, je dirais « Ces objets ont été destinés à des dieux » et ils seraient émerveillés. « Maîtresse ?» C'était de nouveau le chef. Quand ton mari rentre-t-il? Nous voudrions trinquer avec lui pour le remercier de sa magnifique hospitalité. Je ris. Je n'ai pas de mari. Il me sourit en retour. Bien sûr, tu es trop jeune pour être mariée. Dans ce cas, c'est ton père que nous devons remercier. Dehors, il faisait complètement nuit et la pièce était lumineuse et chaude. Mon père vit loin d'ici. Je m'attendais à ce qu'il me demande de qui il s'agissait. Un allumeur de lampe, voilà qui aurait été une bonne boutade. Je souris pour moi-même. Alors peut-être devons-nous remercier un autre hôte, un oncle, un frère. Si vous souhaitez remercier votre hôte, remerciez-moi. Cette maison est à moi, et à moi seule. À ces mots, l'atmosphère de la pièce changea. Je ramassai le pichet de vin. Il est vide, laissez-moi vous en apporter davantage. J'entendis ma propre respiration tandis que je tournais les talons. Je sentais leurs 20 corps remplir l'espace derrière moi. Dans la cuisine, je mis la main sur l'une de mes potions. « Tu te fais des idées, » me rassurai-je. Ils étaient juste surpris de trouver une femme seule. Pourtant, mes doigts étaient déjà en mouvement. J'enlevai le bouchon d'une jarre, mélangeai son contenu au vin, avant d'ajouter du miel pour en couvrir le goût. Je rapportai le pichet. 20 pères dieux me suivirent. « Voilà !» annonçai-je. « J'ai gardé le meilleur pour la fin. Il faut que vous le goûtiez tous. Il vient du meilleur vignoble de Crète. » Ils sourirent, ravis de cette attention luxueuse. Je regardai chaque homme remplir sa coupe. Je les regardai boire. Ils devaient désormais avoir tous l'équivalent d'un fût de vin dans le ventre. Les plateaux étaient vides, saucés jusqu'à la dernière miette. Penchés les uns contre les autres, les hommes parlaient tout bas. Le son de ma voix me parut trop fort. « Maintenant que je vous ai bien rempli la panse, allez-vous me dire vos noms ?» Ils levèrent la tête. Tels des furets, leurs yeux se posèrent très vite sur leur chef. Il se leva et le banc racla la pierre. « Dis-nous d'abord le tien. » Il y avait quelque chose dans le ton qu'il employa. Je faillis le prononcer alors, ce mot magique qui les endormirait. Toutefois, même après toutes ces années, il y avait encore une partie de moi qui ne parlait que lorsqu'on l'interrogeait. « Circé, » répondis-je. Ce nom ne leur évoquait rien. Il tomba dans le vide comme une pierre. Les bancs raclèrent encore le sol. Ils se levèrent tous en même temps, le regard rivé sur moi. Et malgré tout, je continuai à me taire, à me persuader que j'avais tort. J'avais forcément tort. Je les avais nourris. Ils m'avaient remercié. Ils étaient mes invités. Le capitaine fit un pas dans ma direction. Il était plus grand que moi, chaque tendon de son corps endurci par le labeur. Je pensais, quoi, que j'étais stupide, que quelque chose d'autre allait arriver, que j'avais bu trop de vin et que cela m'avait rendue anxieuse, que mon père allait venir. Mon père. Je ne voulais pas passer pour une idiote, faire tout un plat pour rien. J'entendais déjà Hermès raconter l'histoire après coup. Elle a toujours été hystérique. Le capitaine était tout prêt à présent. Je sentais la chaleur de sa peau. Son visage était parsemé de cratères, aussi craquelés que le lit d'un ancien ruisseau. J'attendais encore qu'il me dise une phrase ordinaire, qu'il me remercie ou me pose une question. Quelque part dans son palais, ma sœur riait.
« Tu as été docile toute ta vie, et maintenant tu vas le regretter. Oui, père, tu vois où ça t'a mené. »
Ma langue toucha mes lèvres pour former une phrase. « Y a-t-il ?» L'homme me plaqua contre le mur. Ma tête heurta la surface irrégulière de la pierre, et je vis 36 chandelles. J'ouvris la bouche pour crier le sort, mais il avait appuyé son bras sur ma trachée artère, étouffant le son de ma voix. J'étais incapable de parler, de respirer. J'eus beau résister, il était plus fort que je ne l'aurais cru, ou peut-être était-ce moi qui étais plus faible. Le poids soudain de son corps me choqua, de même que le contact graisseux de sa peau contre la mienne. Mon esprit était encore embrouillé, incrédule. De la main droite, il m'arracha mes vêtements d'un geste entraîné. De la gauche, il continuait à presser de tout son poids sur ma gorge. Même si j'avais dit qu'il n'y avait personne d'autre sur l'île, il avait appris à ne pas prendre de risques. Ou peut-être n'aimait-il juste pas entendre hurler. J'ignore ce que ces hommes faisaient. Peut-être regardaient-ils. Si ma lionne avait été là, elle aurait défoncé la porte à coups de griffes. Sauf qu'elle n'était plus que des cendres dispersées dans le vent. J'entendis les cochons glapir dehors. Je me souviens d'avoir pensé, nue contre la pierre râpeuse, « Je suis bien une nymphe après tout, parce qu'il n'y a rien de plus commun chez nous que cette situation. » Une mortelle se serait évanouie, mais je restais éveillée tout le temps. Enfin, je sentis l'homme trembler et son bras se relâcha. Ma gorge était affaissée sur elle-même comme une bûche pourrie. Je n'arrivais apparemment pas à bouger. Une goutte de sueur tomba de ses cheveux sur ma poitrine dénudée et se mit à glisser. Je pris conscience de ses compagnons qui parlaient derrière lui. « Est-elle morte ?» demanda l'un d'entre eux. « Elle n'a pas intérêt, c'est mon tour. » Une tête apparut au-dessus de l'épaule du capitaine. Elle a les yeux ouverts. Mon agresseur recula et cracha par terre. L'expectoration visqueuse tremblota sur la pierre. La goutte de sueur poursuivit sa course, laissant une traînée moite derrière elle. Dans le jardin, une truie grogna. J'avalai convulsivement ma salive. Ma gorge émit un bruit sec. Je sentis un espace s'ouvrir en moi. Le sort d'endormissement que j'avais été sur le point de prononcer s'était envolé, desséché, et je n'aurais pas pu le jeter même si je l'avais voulu. Mais je ne le voulais pas. Je levai les yeux sur son visage strié de cicatrices. Ses herbes avaient un tout autre usage, et je le connaissais. J'inspirai profondément, puis prononcer le mot. Son expression était troublée, perplexe. « Qu'est-ce que... » Il ne termina pas sa phrase. Sa cage thoracique craqua, puis se mit à enfler. J'entendis le son humide de sa chair qui cédait, le « pan » qu'émirent ses os en éclatant. Son nez gonfla comme un ballon au milieu de sa figure, et ses jambes se ratatinèrent, telle une mouche avalée par une araignée. Il tomba à quatre pattes. Il hurla, et ses hommes hurlèrent avec lui. Cela dura longtemps. En fin de compte, je tuai bien des cochons ce soir-là.